On fait le point avec vous, Jean-Pierre Gaillard. C'est une petite baisse?
Ben oui, Agnès, ça fait une baisse qui commence à devenir un tout petit peu significative. C'est pas catastrophique, mais moins 0,85% de CAC 40. On est à 3 426 points. Marché, 1 milliard 600 millions d'euros négociés. C'est assez modeste. Sur les places européennes, l'euro First 80, l'indice européen perd 1%. Aucune décision de la Banque fédérale américaine sur le dollar. Il n'y avait pas de raison qu'il remonte. Pourtant, ce matin, il remontait parce qu'il y aurait eu, dit-on, une intervention ponctuelle de la Banque centrale japonaise. Mais tout revient à la case de départ, ou presque, puisque maintenant, à 1,2240 pour 1 euro, le dollar ne regagne plus que 0,15%, pratiquement donc inchangé. Je vous rappelle le CAC 40, moins 0,86%, la Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard.
Et on termine avec les résultats de la première course à Vincennes, combinaison gagnante du Quintet Plus, en partant le 16, premier, le 13, deuxième, le 5, troisième, l'As, quatrième, le 3 et cinquième, le 18. Tout de suite, c'est Patrice Gélinet et 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, la politique arabe de la France.
L'amitié et la coopération avec les peuples arabes doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Charles de Gaulle, 27 novembre 1967.
D'histoire. Depuis Napoléon III, la France a toujours entretenu des rapports privilégiés avec le monde arabe, dictés par 130 ans de présence française en Afrique du Nord, par la volonté de jouer un rôle en Méditerranée et d'y défendre ses intérêts. La politique arabe de la France a toujours déchaîné les passions. Ce fut le cas pendant la guerre d'Algérie et pendant l'opération de Suez qui, en 1956, avait dressé contre la France toutes les capitales du monde arabe. Ce fut aussi le cas quand, à partir de 1958, de Gaulle a inauguré en Afrique du Nord et au Proche-Orient une politique nouvelle de coopération et d'amitié entre la France et les pays arabes, une politique qui n'a guère changé depuis le début de la Ve République. On s'en est encore rendu compte il y a quelques mois, quand le ministre des Affaires étrangères français condamnait l'intervention américaine en Irak. Dominique de Villepin à l'ONU, le 14 février 2003.
L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits.
Maurice Weiss, bonjour.
Bonjour.
C'était Dominique de Villepin à l'ONU il y a 10 mois, une intervention remarquée, même applaudie, ce qui est très rare dans l'enceinte des Nations Unies, mais une intervention qui ne faisait au fond que exprimer et reprendre une vieille politique. Dans un article de la revue L'Histoire de ce mois-ci, vous rappelez que la politique arabe de la France remonte au fond au début du 19e siècle et même à la Révolution française.
Oui, c'est une très ancienne tradition française que d'être l'ami, l'allié du monde arabe. Alors évidemment, cela a varié selon les régimes et selon les périodes. On peut faire remonter en effet cela jusqu'à l'alliance entre François Ier et le sultan Soliman le Magnifique contre le Saint-Empire romain germanique. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que cette politique arabe, ou en tout cas cette tendance française pour un intérêt à l'égard des peuples arabes de la Méditerranée, s'est ancré.
Et même avant, d'ailleurs vous dites, Maurice Weiss par exemple, que vous évoquez par exemple l'expédition en Égypte de Bonaparte, hein, avant qu'il soit Napoléon Ier, mais là il s'agit quand même d'une conquête, d'une attaque d'un pays arabe, encore que, vous le rappelez aussi, c'est un pays qui est sous tutelle ottomane.
Oui, en 1798-1799, cette expédition de Bonaparte est vraiment une agression à l'égard de, d'un pays arabe, mais en même temps, vous savez combien le Bonaparte prend soin de se faire accompagner par de très nombreux savants qui vont faire des recherches, des fouilles, des découvertes en Égypte. Par conséquent, il y a du côté français, certes, une volonté de, d'implantation en Égypte, mais de notre côté, une volonté de curiosité, de connaître, de découverte, qui est très spécifique à la France.
Puis il se présente aussi en libérateur des Arabes, hein, qui sont soumis par les Mamelouks turcs. Alors cela dit, plus tard, son neveu Napoléon III va aussi parler d'une grande politique arabe, va rêver d'un grand royaume arabe. Cela dit, la colonisation de l'Afrique du Nord a commencé, et pendant 100 ans, au fond, la présence française, la colonisation française en Algérie, puis en Tunisie et au Maroc, va empoisonner les rapports entre la France et le monde arabe.
Oui et non. Oui et non. Oui, dans la mesure où, a posteriori, la politique de colonisation paraîtra négative et sera connotée péjorativement. Non, dans la mesure où c'est tout de même grâce à cette présence française dans le monde arabe, en particulier en Afrique du Nord, surtout au Maghreb, mais également au Mashrek, que la France devient un pays qui est vraiment très proche des pays arabes, du monde arabe. Ses savants, ses ingénieurs, ses médecins acquièrent des affinités avec le monde arabe qui sont tout à fait exceptionnelles. Le nombre de travaux faits par la France sur cette question est tout de même très intéressant.
Quand dites le Mashrek, hein, c'est l'Orient du monde arabe, c'est notamment la Syrie et le Liban dont la France a été sous protectorat français pendant des années. Alors cela dit, quand même, pendant la guerre d'Algérie, Maurice Weiss, hein, la France est condamnée par tous les États arabes indépendants, y compris la Tunisie et le Maroc, qui ont acquis leur indépendance en 56 et qui ont abrité les combattants du FLN algérien, et puis aussi soutenu cette révolution algérienne, soutenu par Nasser, Nasser qui en juillet 1956 annonçait la nationalisation unilatérale du canal de Suez, lançant donc un défi à ses deux propriétaires, la Grande-Bretagne et la France, dont un ministre va même demander une réaction ferme, ce qui va déclencher l'opération de Suez en novembre 1956, François Mitterrand, à l'époque ministre d'État dans le gouvernement Guy Mollet.
Un vieux pays comme le nôtre, à quelque époque de son histoire, et les échecs n'ont pas manqué, n'a jamais mérité d'être traité avec mépris. Et c'est pourquoi, pour sauver la paix, et c'est pourquoi, pour maintenir les règles fondamentales de la civilisation dont nous sommes les défenseurs, la France n'a pas le droit d'être faible.
Nous sommes en vue des côtes égyptiennes, mardi 6 novembre, le jour vient de se lever et un LMC, un bateau d'assaut, vient se ranger le long de notre bâtiment avec les parachutistes de la Légion étrangère. Je vais passer sur ce bateau et nous allons débarquer sur une plage de Port Fouad. Nous sommes en vue des côtes égyptiennes et déjà au loin, nous entendons tonner les canons anglais.
C'était l'expédition franco-britannique de Suez déclenchée contre l'Égypte en novembre 1956. Jamais, Maurice Weiss, les relations franco-arabes n'ont été aussi mauvaises qu'à cette époque et d'ailleurs qu'à l'époque de l'ensemble de la 4e République.
Oui, sans aucun doute, la 4e République représente une parenthèse dans les relations entre la France et le monde arabe, pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de des suites de la Seconde Guerre mondiale et de la décolonisation. Ensuite, à cause de l'apparition, de la création de l'État d'Israël. Il y a des affinités particulières entre la France de la 4e République et ses dirigeants, et les dirigeants israéliens et le nouvel État d'Israël. Et peu à peu, se fait une espèce d'alliance objective entre la France, qui est mise en difficulté dans ses colonies, et en particulier en Algérie, et l'État d'Israël, qui est soumis à la pression de l'environnement arabe depuis la création en 1948. Et c'est évidemment, lors de l'expédition de Suez, cette espèce de complicité guerrière entre la France et Israël, qui aboutit à l'expédition de Suez dont on vient d'entendre parler, qui manifeste cette alliance franco-israélienne qui est évidemment rejetée par les États arabes qui sont hostiles à la France aussi en raison de la guerre d'Algérie.
Une alliance qui va loin, Maurice Weiss. Vous rappelez que dans cet article qu'à l'époque l'armement israélien était essentiellement, notamment les avions, étaient essentiellement fournis par la France.
Oui, l'État d'Israël et les États arabes aussi avaient besoin d'armement parce qu'ils se sentaient dans une situation belligène très forte. Les pays occidentaux avaient à un moment donné très prudemment décidé un embargo sur les ventes d'armes. Cet embargo a été suspendu et peu à peu la France est devenue le principal fournisseur d'armes, en particulier d'avions, de l'État d'Israël.
Alors que les États-Unis à l'époque n'étaient pas Israël. D'ailleurs, c'est même une intervention américaine et soviétique, une double intervention qui va interrompre cette affaire de Suez, qui sera un fiasco complet alors que l'armée égyptienne était en véritable déroute. Mais à l'époque, les Américains sont en retrait. La France est très impliquée donc auprès de l'État d'Israël. Et ce n'est qu'avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir que la politique arabe de la France va changer, surtout lorsque se termine la guerre d'Algérie. Et là, de Gaulle se lance ouvertement dans une politique de coopération avec l'ensemble des pays arabes. Pour quelle raison ce changement de cap soudain?
Alors, d'abord, je dirais que cette alliance avec l'État d'Israël n'a pas cessé tout d'un coup. Et il faut bien reconnaître que la guerre d'Algérie a duré encore 4 ans du temps du général de Gaulle. Et pendant cette époque-là, les relations entre la France et les pays arabes n'étaient pas bonnes du tout. Elles étaient même franchement mauvaises avec des problèmes particuliers avec l'Égypte en particulier. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où la France décide de reconnaître l'indépendance de l'Algérie, très rapidement, les relations entre la Ve République et les différents États arabes se détendent et on voit peu à peu la reprise des relations diplomatiques entre reprise des relations diplomatiques parce qu'il y avait eu rupture des relations diplomatiques entre la France et les États arabes depuis 1956. Donc c'était vraiment une non seulement une parenthèse mais une rupture qui s'était faite.
Mais je reviens à ma question, pour quelle raison? Est-ce que c'est pour défendre des intérêts économiques? Est-ce que c'est au-delà même des pays arabes une politique de main tendue au tiers-monde? Est-ce que c'est aussi pour ranimer des liens anciens que nous avions justement, vous le rappeliez, avec les pays arabes et depuis le 19e siècle? Est-ce que c'est par anti-américanisme?
Alors, toutes ces raisons existent. Vous avez énuméré les principales raisons qui font que le général de Gaulle et, il faut bien le dire, la diplomatie française, le Quai d'Orsay, toujours plus enclin à avoir une sympathie particulière pour les pays arabes, existe cette tendance. Il y a en effet des raisons économiques, volonté de commercer avec les pays arabes, mais il y a aussi cette idée de lien culturel ancien. Le général de Gaulle a passé plusieurs années au Liban et il se souvient de ces années passées là et par conséquent, il veut avoir une politique de présence de la France partout et en particulier dans le tiers-monde et dans le tiers-monde arabe particulièrement, mais surtout et jusqu'en 1967, c'est une politique d'équilibre qu'il veut suivre.
En tout cas, c'est une politique qu'il va défendre et expliquer, notamment à l'occasion d'une conférence de presse, d'une fameuse conférence de presse dont on a surtout retenu une phrase. Écoutez, c'était le 27 novembre 1967.
L'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.
Alors cette phrase, un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, est évidemment la seule, on y reviendra, la seule que l'on ait retenue d'une conférence de presse où le général de Gaulle expliquait aussi la politique arabe de la France depuis le début de la Ve République. Écoutez.
Une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris avec les peuples arabes d'Orient la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit.
Alors c'était une conférence de presse du général de Gaulle le 27 novembre 1967, définissant la politique arabe de la France telle qu'elle existe encore aujourd'hui, 40 ans après, et qui a provoqué, bien entendu, cette conférence de presse, beaucoup de réactions, et d'abord celle, évidemment, provoquée par la formule employée par de Gaulle sur le peuple juif, sûr de lui et dominateur, la revue de presse de l'époque, Stéphanie Duncan.
Oui, ces mots du général de Gaulle provoquent un véritable tollé en France et à l'étranger aussi. Inquiétude d'abord du grand rabbin de France qui demande « En imputant au peuple juif des prédispositions séculaires à la domination, le général de Gaulle ne prend-il pas le risque d'ouvrir dangereusement la voie à des campagnes de discrimination ?» Robert Lazuric, dans l'Aurore, rapproche les propos de de Gaulle de ceux de Charles Maurras et s'inquiète pour Israël, cerné, dit-il, par des dizaines de millions d'Arabes qui ne font pas mystère de leurs intentions, supprimer l'État d'Israël et ses habitants. Choqué aussi le journal Le Monde qui rappelle que tant de juifs déclarés soudain dominateurs ont servi sous la croix de Lorraine. Dans le Nouvel Observateur, Jean Daniel ne croit pas que le général de Gaulle soit spécialement antisémite, mais qu'il fait tout ce qu'il peut servir son orgueil et sa politique, c'est-à-dire pour devenir le prophète du monde arabe. Alors, parmi ceux qui applaudissent de Gaulle, l'Humanité qui écrit « Le général de Gaulle préconise au Moyen-Orient un règlement équitable ayant pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force. » Dans Le Monde, le révérend père Riquet, sous le titre éloquent « Entre Israël et Ismaël », explique que le général de Gaulle se refuse à épouser sans réserve la cause d'Israël, mais pas davantage celle des pays arabes. « Entre les uns et les autres, dit-il, il veut se ménager la liberté d'intervenir, sinon en arbitre, du moins en modérateur et en conciliateur, au profit des uns comme des autres. » Au Moyen-Orient, on interprète les paroles de de Gaulle de manière beaucoup moins mesurée que le révérend père Riquet. En Israël, toute la presse s'indigne. Le journal Ayoum, par exemple, dénonce, je cite, « cette voix venimeuse qui puise son inspiration dans les protocoles des sages de Sion qu'Hitler utilisa si bien pour sa propagande antisémite. » En revanche, les pays arabes exultent. « Le général de Gaulle est le dernier grand sage du siècle », affirme par exemple le journal Al-Nahar à Beyrouth. Alors Jean Lacouture, dans sa biographie de de Gaulle, cite l'écrivain arabe, à l'époque Leïla Baalbaki, qui décrit le général de Gaulle comme, je cite, un fidaï, c'est le singulier de fedaïn, qui a jeté son vieux corps courageux de 77 ans en pâture aux flammes des incendies sionistes, allumés dans les demeures des innocents, bénissez-le. En revenons à Paris, où Pierre Viançon-Ponté, dans Le Monde, s'interroge sur l'avenir. Ce qui vient de se passer risque, dit-il, de laisser des traces profondes et durables. La politique française au Moyen-Orient, quel que soit le régime, ne pourra plus désormais se développer sans tenir compte de ce qui vient d'être dit.
Un commentaire sur ces réactions à la conférence de presse du général de Gaulle, Maurice Weiss. Et d'abord, est-ce qu'on peut dire vraiment, comme certains le disent, qu'il était antisémite ?
Certainement pas, mais il est vrai que ses propos étaient ambigus et prêtés à confusion, si bien que dans cette atmosphère tendue de l'année 1967, avec une opinion publique de plus en plus réservée à l'égard de la politique extérieure du général de Gaulle, cette phrase fait mouche et a un effet particulièrement désastreux. Cette phrase est évidemment saisie par ceux qui s'opposent à un revirement de la politique de la France à l'encontre d'Israël pour imputer au général de Gaulle des propos antisémites, ce que ces propos ne sont pas, oui, enfin, évidemment.
En plus, c'est l'ancien chef de la France libre de que l'on accusait, que Vichy, qui était antisémite, accusait justement de travailler pour le compte des Juifs. Alors, cela dit, Maurice Weiss, le fait qu'on focalise sur cette phrase fait oublier, vous le disiez d'ailleurs à l'instant, le reste, c'est-à-dire une nouvelle politique, et on l'a entendu d'ailleurs dans un extrait de cette conférence de presse, qui voulait à la fois la reconnaissance de l'État d'Israël, mais aussi des droits des Palestiniens. C'est ça, au fond, la nouvelle politique annoncée par de Gaulle en 67.
Oui, je ne crois pas qu'il ait explicitement évoqué le cas des Palestiniens. Le problème palestinien va apparaître surtout dans la deuxième partie de dans les années 1970, ce qui n'est pas le cas à ce moment-là. À ce moment-là, le problème qui est posé, c'est celui de l'équilibre entre Israël et les États arabes, et de Gaulle saisit l'occasion de la guerre pour rééquilibrer de façon très nette la politique de la France et entreprendre une politique de présence active dans le monde arabe, en particulier par des ventes d'armes et des achats de pétrole.
Mais parce que cette politique va être reprise par les successeurs du général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, notamment avec des rapprochements qui peuvent être douteux, hein, comme ceux avec la Libye ou encore avec l'Irak, auxquels on livre des armes. Mais cette politique est également reprise en 1981, lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir. Il reprend lui aussi donc cette politique gaullienne et va même défendre et porter plus loin cette politique en allant à la Knesset, le Parlement israélien, où François Mitterrand s'adresse aux Israéliens en hébreu le 4 mars 1982.
Haïm Arukim Veshalom Barkaïma Leam Israël. Kaïm Arukim Veshalom Barkaïva Leamei Ahezor Arva Merudeshet. Shalom, amis et longue vie.
Longue vie et paix durable au peuple d'Israël, longue vie et paix véritable au peuple de toute la région, fraternité renouvelée, paix mes amis et longue vie.
Oui, le peuple français est l'ami du peuple d'Israël. Désormais, Israël vit. Et nous, la France, nous ne ménagerons pas plus qu'hier nos efforts pour que son droit à l'existence soit universellement admis sans équivoque, et donc pour que soit reconnu du même coup son droit à détenir les moyens de cette existence. Comment l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité à Israël? Le dialogue suppose que chaque parti puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État.
Alors c'était François Mitterrand à la Knesset le 4 mars 1982, un discours qui, malgré les quelques mots en hébreu, a été très très mal accueilli par les Israéliens. Maurice Weiss, d'abord, parce qu'on l'a entendu, il reconnaît en l'OLP le représentant des combattants palestiniens, hein, et puis il parle de la possibilité d'un État. Ça, c'était tout à fait nouveau. En cela, Mitterrand va plus loin encore que ses prédécesseurs.
Oui et non. Déjà, Valéry Giscard d'Estaing avait fait un pas décisif en invitant les Européens à le suivre en reconnaissant le fait national palestinien en 1980. Il y avait les entrevues du ministre des Affaires étrangères avec Yasser Arafat. Par conséquent, la voie a été ouverte. Ce qui frappe probablement les Israéliens, c'est qu'ils attendaient de François Mitterrand une politique plus nettement favorable à Israël. Et que François Mitterrand, d'ailleurs, le manifeste en rendant visite en Israël, mais en voulant de même avoir une politique d'équilibre, c'est-à-dire reconnaissance d'Israël et soutien à Israël, mais de notre côté, demande aux Israéliens de reconnaître le fait palestinien et par conséquent un État palestinien.
Alors cela dit, 8 ans plus tard, on verra le même François Mitterrand soutenir la première intervention américaine en Irak en 1990. On a même parlé d'un tournant. En réalité, il faut rappeler, vous le rappelez Maurice Weiss quand même, qu'il s'agit à l'époque d'une agression délibérée de l'Irak sur le Koweït, et d'autre part qu'à l'époque aussi, en 1990, eh bien, la plupart des pays arabes approuvaient cette intervention américaine.
Sans aucun doute. Mais ce qui est très frappant, c'est que pendant toutes les années précédentes, la France a été le pays qui a le plus aidé l'Irak. Et quand la guerre est déclenchée, en 1991, la France est un pays qui a énormément prêté d'argent à l'Irak. L'Irak lui doit 25 milliards de francs. Et par conséquent, c'est une politique risquée. C'est pour ça que d'ailleurs que François Mitterrand met du temps à se lancer dans cette politique arabe.
Alors cela dit, plus tard encore, en 2003, il y a quelques mois, on a vu la France condamner en revanche l'intervention américaine en Irak, saluée en cela bien entendu par l'ensemble des pays arabes avec lesquels on entretient toujours d'aussi bons rapports. Cela dit, on a quand même l'impression que malgré cette politique arabe et peut-être ce qu'elle cherche, la France ne pèse pas très lourd dans tout ce qui se passe au Proche-Orient. Vous en faites vous-même un bilan plutôt sombre. Vous dites qu'au fond, cette position française est conforme à la légalité internationale, mais totalement impuissante à faire prévaloir sa vision du monde.
Oui, la France parle, la France dit le droit, mais la France est impuissante à faire prévaloir sa vision du monde et ses intérêts et sa présence. Auparavant, c'était les intérêts de l'Union soviétique et des États-Unis. Force est de reconnaître que ce sont les États-Unis qui le plus souvent dictent leur politique dans cette région du monde, quoi que dise ou quoi que fasse la France.
Merci Maurice Weil. Je vous rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Enquête sur la politique arabe de la France », un article publié dans la revue Histoire du mois de décembre. Vous êtes également l'auteur de « La grandeur, politique étrangère du général de Gaulle », un livre publié chez Fayard. Et enfin, vous avez dirigé avec Christopher Gauchat la publication des actes du colloque « La guerre du Vietnam et l'Europe » qui vient d'être publié chez Bruylant. À lire également « La politique musulmane de la France au XXe siècle » de Pascal Le Potrema, publié chez Maisonneuve et Larose. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, Martine Auger et Caroline Chausset, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Il est 14h30 sur France Inter, demain dans 2000 ans d'histoire avec André Caspi, la peine de mort aux États-Unis. Mais tout de suite, une demi-heure de tendresse dans ce monde de brutes, Chris.
Vous avez bien raison, une demi-heure de tendresse.